RFI. Grand reportage.
Je me souviens bien de la période spéciale, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus difficile que durant la période spéciale. C'est pire, c'est plus dur d'obtenir des produits et les médicaments ont disparu.
Il y a tout juste 30 ans, Cuba entrait dans la période spéciale en temps de paix. Une longue période de crise économique provoquée par la chute de l'URSS, son principal allié. Aujourd'hui, Cuba affronte encore d'importantes difficultés économiques, aggravées par des sanctions américaines renforcées. Une crise qualifiée de conjoncturelle, mais qui rappelle à certains Cubains les années 90. 30 ans après, le spectre de la période spéciale plane encore sur Cuba. Un grand reportage de Domitille Piron.
À la pompe à essence du tunnel de Playa, Basiliano Gomez fait le plein du réservoir de Salada Rouge. Aujourd'hui, il y a de l'essence, mais régulièrement, depuis le mois d'août dernier, il faut patienter plusieurs heures avant de faire le plein. Les bateaux pétroliers craignent les sanctions américaines et se refusent régulièrement de livrer du pétrole sur l'île. Mais ces pénuries d'essence ponctuelles ne sont en rien comparables à celles des années 90.
Comment ne pas m'en souvenir? Il n'y avait presque pas d'essence. Les particuliers ne pouvaient pas en acheter. L'essence était rationnée chaque mois. Puis ensuite, il n'y en avait plus que pour certains travailleurs, comme les médecins.
Avant la chute de l'URSS, Cuba importait 98% de son pétrole de l'Union soviétique en échange de sucre et de nickel. Il y a 30 ans, presque du jour au lendemain, l'île est donc privée de brut et le silence s'empare des rues de la Havane.
J'utilisais très peu la voiture. J'avais une réserve d'essence pour des situations particulières, mais je l'utilisais très peu. Il fallait se déplacer à vélo. Moi, je faisais 26 km par jour à vélo, 13 pour aller au travail et 13 pour revenir.
Sans le pétrole du grand frère soviétique, Cuba est presque paralysé. Se déplacer devient un véritable casse-tête et apparaissent alors de nombreuses inventions comme les camélos, d'énormes bus soudés entre eux, et les vélos envahissent les rues cubaines. Le jeune Yacer González Cabrera n'a pas vraiment connu cette époque. Ce passionné de vélo a fondé Citicleta, une petite entreprise de guide touristique à vélo, et essaye de fomenter l'usage de la bicyclette parmi les Cubains.
L'économie s'est complètement effondrée. Alors pour pallier au manque de transport public, l'État a distribué des vélos dans les centres de travail et on estime qu'un million de bicyclettes ont été importées à Cuba, principalement dans la capitale. Le vélo servait à résoudre un problème de transport, donc c'est resté très associé à la pénurie et au manque et les gens sont restés traumatisés.
L'arrêt des importations de pétrole engendre à l'époque une série de conséquences pour l'industrie cubaine et la productivité des entreprises tombe en à peine 2 ans presque à zéro. Les importations d'aliments, de machines et de matières premières diminuent de 70% et privées aussi de combustible, de pesticides et fertilisants, la production agricole chute elle aussi drastiquement. À quelques kilomètres de la Havane, dans la campagne de Bauta, Miguel Alvarez cultive des fruits et légumes. Le vieil homme a plus de 60 ans. Il est assis sous un manguier avec ses chiens et semble ne pas vraiment apprécier l'évocation du souvenir des années 90.
La période spéciale a été très difficile. Tout le monde a souffert à cette époque. Mais bon, on s'en est sorti.
D'une agriculture très industrialisée, dite conventionnelle, les paysans doivent alors inventer des techniques bio et produire plus avec moins. Un discours qui a 30 ans et qui se répète aujourd'hui selon Miguel Alvarez.
Le pays se retrouve encore une fois en difficulté avec l'alimentation et demande de l'aide aux paysans pour pallier à ce problème. Mais bon, celui qui se sent révolutionnaire doit coopérer à l'effort.
30 ans ont passé, mais Cuba n'a toujours pas atteint sa souveraineté alimentaire et importe encore aujourd'hui 70% de son alimentation. La crise du coronavirus, le durcissement des sanctions américaines et les blocages internes de l'économie cubaine ont plongé aujourd'hui le pays dans une nouvelle crise alimentaire. Pour Olga Duque, la femme de Miguel, la crise passée importe peu comparé à ce qu'elle traverse aujourd'hui.
Je me souviens bien de la période spéciale, mais je ne sais pas si c'est parce que j'étais plus jeune ou quoi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus difficile que durant la période spéciale. C'est pire, c'est plus dur d'obtenir des produits, j'ai plus de difficultés et les médicaments ont disparu. Les médicaments sont perdus.
Pour beaucoup de Cubains, la situation actuelle et la crise des années 90 sont effectivement comparables. Alors certains ressortent à contre-cœur les recettes et inventions de l'époque. Dans cette modeste maison où vivent trois générations sous un même toit, le café qui disparaît régulièrement des étals et que l'on obtient après plusieurs heures d'attente se mélange au chicharro ou à n'importe quelle graine grillée. Et pour se laver les dents, on se tourne à nouveau vers l'huile de coco, car le dentifrice n'est distribué qu'un mois sur deux et se revend au marché noir entre 5 et 15 dollars. La grand-mère, Irene Mesa, garde un souvenir amer de la période spéciale.
Non, c'était terrible cette époque. On inventait tout, avec n'importe quelle feuille on cuisinait. On faisait comme de la viande hachée avec les épluchures de banane. On mélangeait avec de la vraie viande, un tout petit bout avec les épluchures de banane. Imagine qu'à l'époque, tout le monde maigrissait à vue d'œil, à tel point qu'il est apparu la maladie de la neuritis. Et les gens commençaient à avoir des problèmes aux os. Et pour guérir cette maladie, il n'y avait rien, parce que cette maladie était liée au manque d'alimentation. Et où était la nourriture?
Durant la période spéciale, les Cubains ont faim et 50 000 personnes ont en effet souffert de la néolithis par manque de nutriments et vitamines. À l'époque, on raconte même que les chats disparaissent dans les assiettes des Cubains. Après le départ des Soviétiques, Cuba manque de tout, même de gaz.
Du gaz? Non, il n'y avait pas de gaz. Du coup, je me suis habituée à cuisiner au charbon. Et régulièrement, je cuisine encore au charbon.
Et il y a encore quelques mois, à l'annonce d'une pénurie de gaz en bouteille par manque d'un composant dont les États-Unis bloquaient l'importation, les Cubains ont donc ressorti les cuisinières à bois durant quelques semaines. En ce mois d'août, parmi les produits les plus recherchés à Cuba, le shampoing et le savon figurent en tête de liste. La fille d'Irene, Nirma Mesa Oliva, n'ose pas encore imaginer devoir utiliser à nouveau le savon inventé à l'époque.
On lavait avec de l'agave. Tu te souviens, maman? L'agave, ça faisait mal aux mains. Cette plante fait une sorte de mousse. Parce qu'il n'y avait pas de savon, alors on se lavait avec ça, et ensuite on s'est mis à faire du savon avec de la potasse, et ça faisait mal aux mains.
Dans cette famille, Mairene, la deuxième fille de la maison, a eu deux enfants. Le premier est né en 1992, en pleine période spéciale.
Ça a été très difficile parce que tout était très cher. Je pensais que j'allais devenir folle avec un bébé en pleine période spéciale. Il fallait faire des sacrifices, donc nous, on se serrait la ceinture, on mangeait peu pour que le petit puisse grandir avec une alimentation appropriée.
Et 20 ans plus tard, Mairene a une fille. Et malgré toutes ces années d'écart, aujourd'hui, c'est tout aussi difficile pour nourrir la petite de 9 ans. Les queues et l'attente pour pouvoir entrer dans un magasin et obtenir un paquet de poulet, un litre d'huile ou un petit paquet de saucisses occupent toutes les conversations.
Non, cette queue l'autre jour, c'était terrible. Et sans l'aide de ma voisine, je n'aurais pas pu acheter. Mais imagine, cela faisait un mois que je n'avais pas acheté de poulet. Mais cette file d'attente pour acheter du poulet, franchement, ça me fatigue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est une nécessité, ce n'est pas facile.
Tu as raison, maman, mais moi, jamais je ne me mettrai dans une de ces files d'attente.
Oui, j'espère que tu n'auras jamais à faire la queue.
Cette mère de famille s'accroche effectivement à l'espoir que les choses changent, mais en 30 ans, sa situation économique, celle de sa famille et du pays, ne s'est pas bien améliorée. Elle reconnaît tout de même que le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts, car à la différence de la période spéciale, il n'y a quasiment plus de coupure de courant.
Personne ne peut imaginer ce que c'est avec un petit bébé quand il coupait l'électricité. 3 ou 4 fois dans la journée. Mais durant la journée, on ne le sentait pas trop. Mais la nuit, avec une coupure de courant pour dormir avec la chaleur et les moustiques, sans pouvoir mettre un ventilateur, c'était terrible, terrible. On pensait devenir fou. Il y avait des gens qui sortaient dans la rue pour dormir sur le trottoir. Il y a des gens qui se réveillaient dans la rue. C'était vraiment exaspérant.
Aujourd'hui, Cuba produit 40% du combustible qu'elle consomme
utilisé principalement pour faire tourner ses centrales électriques. L'État économise encore aujourd'hui son énergie en coupant le courant dans les centres de travail et usines plusieurs heures par jour, mais pas dans les foyers. Ainsi, le gouvernement évite les critiques et réactions hostiles des Cubains qui s'expriment désormais sur les réseaux sociaux. À l'époque, les coupures de courant, les nombreuses interdictions, les pénuries et le ras-le-bol généralisé provoquent de telles tensions que pour la première fois depuis le triomphe de la Révolution, les Cubains descendent dans la rue pour protester en 1994 et Cuba connaît une véritable explosion migratoire. Dans ce documentaire intitulé « L'espoir d'un peuple », cet homme raconte qu'il préfère se perdre en mer que continuer à vivre en ayant faim dans la misère et la nécessité et qu'il part chercher sa liberté. Comme lui, on estime que 70 000 Cubains ont quitté l'île entre 1991 et 1994 sur des embarcations de fortune. La grand-mère, Irene Mesa Oliva, se souvient.
Un tel est parti. Ma sœur m'appelait au téléphone et me racontait. Un tel est parti, machin est parti. De mon village, de Mayari, beaucoup de gens sont partis. Beaucoup sont arrivés et beaucoup ne sont jamais arrivés et sont restés sur la route. Les gens devenaient fous, ils partaient sur n'importe quoi, des planches, une petite embarcation. Et cette mer en a mangé des gens. Les gens prenaient des pneus, des chambres à air et montaient dessus pour partir, même avec des enfants. Je te le dis, la mer et les requins se sont fait un sacré festin à cette époque.
Fidel Castro, discours au peuple en période spéciale.
Nous sommes dans la période spéciale, une période difficile, la période la plus difficile de notre histoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes désormais seuls face à l'Empire, tout seuls. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour faire face à l'Empire ? Il nous faut de l'unité, des valeurs, du patriotisme. Nous avons besoin de l'esprit révolutionnaire. Un peuple fragile, traître, se rend et retourne en esclavage. Mais un peuple digne, vaillant comme nous, ne se rend pas et jamais ne retourne en esclavage.
À l'époque, Fidel Castro fait face au plus grand défi de sa révolution et en appelle à l'Union nationale pour surmonter la crise et sauver le socialisme cubain. Force est d'adopter une nouvelle stratégie économique. Cuba s'ouvre alors au tourisme, aux investissements étrangers pour attirer des devises. Le dollar est dépénalisé. L'envoi de remesas, les mandats de la diaspora, est autorisé, ainsi qu'une certaine forme de propriété privée. Pour libérer le secteur étatique, Fidel Castro autorise également le développement d'une certaine forme de travail à son compte. Alors il y a 25 ans, Moraima Cabrera décide de se lancer et devient cuenta propista. En ouvrant son propre petit restaurant avec certaines restrictions, il doit obligatoirement être familial et limité à une dizaine de chaises.
Ça a été une opportunité et j'ai décidé de laisser tomber le piano pour me lancer dans cette entreprise familiale parce que c'était nécessaire. L'économie était vraiment en mauvaise passe et ça a été une très bonne opportunité pour permettre à la famille de se maintenir. On faisait ça dans le patio, dans le salon de la maison et puis au fil du temps, les petites entreprises privées ont pris une autre dynamique et de ce petit restaurant sans expérience, on est passé à un espace plus grand, plus expérimenté et on embauche du personnel. Et voici où on en est aujourd'hui.
Le Bon Appétit, le restaurant de Moraima, occupe désormais une place centrale en bord de mer dans le quartier résidentiel de Playa. Le nombre de chaises n'est plus limité et elle embauche 60 cuenta propista. L'économie cubaine s'ouvre de plus en plus au secteur privé avec plus d'activités autorisées et l'ouverture d'un marché de gros. Aujourd'hui comme hier, le secteur privé semble donc faire partie de la solution à la crise. En manque cruel de devises avant même la fermeture au tourisme pour cause de coronavirus, Cuba emploie donc à nouveau les solutions de la période spéciale, comme l'ouverture de magasins d'alimentation uniquement en devises. Alors que depuis des mois, les Cubains patientent dans des files d'attente kilométriques pour acheter de la nourriture, la mesure passe mal parmi ceux qui n'ont pas accès aux devises. Mais pour Mayra Olea Sanchez, c'est une bonne chose. En tout cas, elle fait beaucoup moins la queue.
Le pays doit récupérer des devises, c'est indispensable. On est déjà passé par là la première fois qu'ils avaient mis en place des magasins. Moi, ça ne me fait rien. C'est très bien qu'ils récupèrent des devises ainsi. Combien de Cubains ont grandi sans ces magasins? Comme je te le dis, je vois beaucoup d'intelligence dans ce gouvernement, beaucoup d'action, et ils sont en accord avec les demandes du peuple.
À l'époque, cette mesure de court terme fonctionne. Et à l'époque encore, l'agriculture fait l'objet de toutes les attentions. Aujourd'hui, non seulement les agriculteurs sont appelés à produire plus et l'agriculture pourrait se voir plus privatisée, mais les citoyens aussi sont incités à cultiver la moindre parcelle de terrain et de potager urbain.
Nous sommes dans le quartier historique de la vieille Havane. Nous n'avons pas de terre en soi, mais on a fait des bacs de culture et on a mis en pot des plantes ornementales et aromatiques. On a du romarin, de l'anis, de la camomille, des calebasses, de l'origan, des petits oignons, de la papaye.
Betty a suivi la tendance apparue dans les années 90 des organoponicos, des potagers urbains pour rapprocher les cultures des consommateurs. On en compte désormais une centaine à la Havane. Elisabeth n'en est pas encore là, mais cette Cubaine sans emploi faute de tourisme développe petit à petit ses cultures dans sa petite cour d'immeuble.
Avec tout ce qui s'est passé avec la Covid, cela permet de fournir des aliments à la population de façon très locale. Et le président nous incite à faire ça, à ce qu'il y ait plus de parcelles urbaines et de petits espaces comme ça où l'on peut cultiver des aliments.
Cultiver et produire plus, c'est donc le mot d'ordre actuel pour atteindre la souveraineté alimentaire. Le gouvernement martèle son plan d'économie pour réduire les importations et parle même de transformation du modèle économique. Mais si les solutions de la crise d'hier sont encore employées aujourd'hui, alors que s'est-il passé en 30 ans dans la Cuba communiste ? Réponse de l'économiste Juan Triana Cordovi.
Que s'est-il passé en 30 ans ? Eh bien, malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à solutionner les grands problèmes qui refont surface aujourd'hui. C'est surtout dû à des décisions de politique économique dans l'agriculture et le reste de l'économie. Et tout est très lent. Je crois qu'on passe trop de temps, beaucoup trop de temps à penser à ce qu'on aurait dû faire et que nous n'avons pas fait, ce qui aurait dû être fait.
Dans les années 90, Cuba sort de la crise économique de la période spéciale en privatisant légèrement son économie et en s'ouvrant au reste du monde, notamment via des investissements étrangers, le tourisme et l'envoi de médecins à l'étranger. Puis en 1999, Hugo Chavez arrive au pouvoir au Venezuela et fournit à Cuba le précieux or noir dont elle a tant besoin. Aujourd'hui, les difficultés économiques de Caracas se font ressentir jusqu'à la Havane et le blocus américain vieux de 60 ans s'est endurci avec Donald Trump à la Maison-Blanche qui tente de couper les vivres venant de l'extérieur à Cuba. L'économie cubaine est à bout de souffle et le coronavirus n'arrange rien aux affaires du gouvernement de Miguel Díaz-Canel. Mais le président, qui se montre quotidiennement à la télévision, ne faiblit pas. Il est même proactif, selon l'économiste Juan Triana.
Nous sommes dans une situation beaucoup plus difficile que durant la période spéciale. D'abord, ce gouvernement est entré en fonction dans un pays qui était déjà en crise, avec des restrictions financières extérieures comme jamais nous n'en avons eu, avec une persécution de la part du gouvernement des États-Unis qu'aucun autre pays n'a jamais subi, jamais, et avec en plus des failles structurelles internes que nous n'avons jamais résolues. Alors, évidemment, nous sommes dans une situation beaucoup plus difficile que celle de la période spéciale. Mais ce que je crois, c'est que le gouvernement en est conscient. Il a prouvé ces derniers mois qu'il a l'intention d'aller de l'avant, de résoudre les problèmes qui n'ont jamais été solutionnés avant et de prendre des risques.
Poner à andar lo que ya se había probado y tomar riesgo.
30 ans après, le spectre de la période spéciale plane encore sur Cuba. Un grand reportage de Dominique Piron, réalisation Eva Piedel.